Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Prague dans cette émission préparée pour vous par la rédaction française. Aujourd'hui culture, Anna Kubišta propose de découvrir l'artiste tchèque Adolf Wölfli. Comme tous les 15 jours, nous écouterons la rubrique de Guillaume Narguel, le tchèque sur le bout de la langue. Et enfin dans notre page littéraire, Václav Richter nous fera découvrir l'écrivain tchèque Ladislav Fuchs. Bonne écoute à toutes et à tous et bon week-end. Mais tout de suite, place à la culture. Jusqu'au 27 mai, la galerie de la Maison à la Cloche de Pierre, place de la Vieille Ville à Prague, propose de découvrir Adolf Wölfli, l'un des plus importants représentants de l'art brut au XXe siècle. Interné près de la moitié de sa vie en hôpital psychiatrique, il a laissé une œuvre foisonnante et étonnante dont on peut découvrir une partie dans cette exposition intitulée « Adolf Wölfli, créateur de l'univers ». Thérésie Zemankova est spécialiste et propagatrice de l'art brut en République tchèque. Elle est également la commissaire de cette exposition. Elle revient sur le parcours de cet artiste hors norme au micro d'Anna Kubišta. On les écoute.
Culture sans frontières.
Adolf Wölfli, qui est aujourd'hui considéré comme un des plus intéressants artistes de Suisse et de l'Europe du XXe siècle, il était d'une origine vraiment très très pauvre. Adolf Wölfli est né dans le canton Bernois en Suisse, dans une famille de 5 enfants, donc il était le plus jeune. Son père était alcoolique et la mère est bientôt morte, donc il est devenu orphan. Et après, il a changé les familles qui se sont occupées de lui, mais où il a aussi travaillé vraiment d'une façon assez dure. Et il était aussi maltraité. Et après, dans sa jeunesse, il a travaillé comme un travailleur saisonnier. Après, il a eu des conflits avec les lois parce qu'il a essayé d'abuser de jeunes filles et il était arrêté.
Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en fait après en asile psychiatrique.
Oui, voilà. Et après la deuxième tentative de viol, il était définitivement interné dans la clinique psychiatrique à Waldau, près de Berne, où il a passé le reste de sa vie. Il avait à peu près 30 ans. Dans ce moment-là, il a perdu définitivement sa identité parce que le passé était terrible, le futur n'existait pas parce que le présent était pitoyable aussi. Donc on peut envisager que c'est la raison pour laquelle il a inventé la nouvelle identité qui était glorieuse et pourquoi il a créé son monde parallèle par rapport à son œuvre. Mais il faut dire que son œuvre n'est pas seulement picturale, mais qu'elle est avant tout écrite.
En fait, c'est des centaines et des centaines de cahiers en fait qu'il a rempli au cours de ses années d'internement.
Oui, il a écrit plus ou moins 25 000 pages de textes qui sont illustrées par 1600 dessins et plus ou moins 1600 collages. Parce que dans sa période tardive de sa création, elle a remplacé le dessin par le collage.
C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs un peu justement, parce qu'ici à Prague, dans la maison à la Cloche de Pierre, dans ces galeries, évidemment c'est un extrait de son œuvre qui est énorme, mais du coup en effet on voit à la fin de manière chronologique que vers la fin en fait il s'oriente vers les collages.
Oui, tout à fait, parce que nous avons voulu présenter l'œuvre de Wölfli de son début jusqu'à son fin, mais bien évidemment on était obligé de faire la sélection qui était très dure. L'exposition commence par ses premiers dessins qui sont encore noirs et blancs, mais ça c'était pas son choix parce qu'il n'avait pas le crayon en couleur, donc il a utilisé seulement un crayon simple. Et dans ses dessins, on peut reconnaître les scènes narratives qui ont un rapport direct avec sa vie privée, avec sa vie, avec son passé. D'ailleurs, nous connaissons le passé d'Adolf Wölfli grâce à sa courte biographie qu'il avait écrite aux demandes des médecins de Waldau et où il a Il a décrit complètement son enfance et sa jeunesse, bien sûr que par une façon un peu idéalisée, mais plus ou moins nous avons l'idée de sa vie avant son enterrement à Waldau.
Alors Adolf Wölfli a été diagnostiqué comme schizophrène, par qui est-il pris en charge et comment est-ce que sa création est vue par le monde médical à cette époque-là ?
C'était son psychiatre, Walter Morgenhaler, qui est arrivé à Waldau en 1907 et qui a resté à peu près 15 ans. Lui, il a apprécié beaucoup l'œuvre de Wölfli, il l'a supportée.
Il l'a encouragé à créer.
Il l'a encouragé à créer. Il a écrit aussi un livre qui était consacré à Wölfli, qui est apparu en 1921 et qui était d'ailleurs le premier ouvrage où on parle des patients psychiatriques comme d'un artiste, et où il est présenté par son nom et prénom réel. Il n'y a pas seulement des initiales ou le numéro de son cas ou quelque chose comme ça. De ce point de vue, cette œuvre ou ce livre qui n'était d'ailleurs pas apprécié par les historiens d'art ni par les psychiatres est vraiment fondateur ou... Pourquoi cette œuvre était vraiment un tournant.
Comment travaillait Adolf Wölfli ? Est-ce qu'on sait, par exemple, sa journée ? Est-ce qu'il commençait à créer très tôt ? Est-ce qu'il créait toute la journée ? Est-ce qu'il créait la nuit ? Est-ce qu'on sait un petit peu les détails de sa création concrète ?
On connaît la vie d'Adolf Wölfli grâce au rapport médical qui a été conservé de Waldau.
Donc vous reproduisez d'ailleurs des extraits dans cette exposition ?
Voilà, il y a aussi beaucoup plus d'extraits dans le catalogue qui apparaît dans le catalogue. Voilà. Et nous savons qu'il était vraiment obsédé par son travail, qu'il l'a considéré comme une œuvre vraiment très très importante, et qu'il a consacré à sa création tout le temps libre. Mais c'est aussi vrai qu'il a travaillé dans les chambres et dans le jardin, qu'il aimait aussi travailler avec du bois. Coupé de bois, mais s'il pouvait, il dessinait. Et ce qui est intéressant, finalement, on peut diviser son œuvre en deux parties. Il y a sa création géante de Saint-Adolf II, comme il a nommé son œuvre. Et à côté de ça, il existe des dessins qui sont uniques, qui sont séparés, qui sont sur le feuille de papier séparé, et qu'il a vendu ou changé, qu'il a échangé contre le tabac ou contre les crayons, contre les papiers, tout ça, où il les a vendus.
Donc ça veut dire qu'à l'époque, il y avait des acheteurs ?
Oui, parce que avant tout, il y avait des acheteurs qui se sont recrutés des employés de l'hôpital ou des visiteurs de l'hôpital. Et après la parution des livres de Morgenhaler, il y avait la première vague de l'intérêt de l'œuvre de Wölfli. Donc il y avait André Breton qui a eu son œuvre dans sa collection, c'était le buffet. Il y avait beaucoup de médecins de l'époque, des Suisses, des artistes, tout ça. Donc ce qui est intéressant, c'est un peu le paradoxe, mais Wölfli est devenu, disons, célèbre grâce à ces dessins-là qui sont beaucoup moins intéressants que son œuvre principale. Parce que son œuvre principale, ça veut dire les grands cahiers, la création géante ou l'œuvre géante de Saint-Adolf II est composée de plusieurs, finalement de 45 cahiers. Le premier ouvrage est nommé « Le berceau au tombeau ». Et le dernier, c'est le marche funèbre.
C'est une œuvre complète, en fait, on pourrait
voilà.
dire.
Voilà, c'est une œuvre complète. Cette œuvre-là était découverte, on peut dire, dans les années 70 par l'historien d'art suisse Harald Zeman, qui était le premier qui a montré au grand public dans un contexte qui est très, très intéressant pour nous parce qu'il a exposé tout l'ensemble de l'œuvre de Wölfli dans le Documenta 5 à Kassel en 1972. Ça veut dire qu'il a placé la création de Wölfli dans le contexte de l'art contemporain.
On se rend compte quand on regarde un peu ce qui est présenté ici à Prague, que évidemment tous ces toutes ses œuvres sont très touffues. On a l'impression qu'il avait une espèce de peur ou d'horreur du vide. Est-ce qu'on pourrait dire un petit peu que justement c'était une manière de combler justement un espace?
Oui, c'est vrai que tous les feuilles sont complètement remplies, ce qui est assez courant chez les schizophrènes. On peut deviner que c'est vraiment horror vacuum, quelque chose comme ça. Mais chez Wölfli, les dessins étaient avant tout illustrations pour son œuvre écrite. Donc, dans la première partie du Berceau au tombeau, on peut trouver beaucoup de dessins qui représentent les cartes géographiques. À l'hôpital de Waldau, il a eu à disposition des revues géographiques qui étaient son source d'informations de la géographie, qui était d'ailleurs très importante pour lui.
Donc, oui, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'œuvres qui sont intitulées, qui tournent autour de l'Amazonie et différents endroits du monde.
Oui, voilà. Mais bien évidemment, il a transformé la réalité géographique par sa fantaisie, son imagination. Donc, il a créé un monde parallèle qui était tout à fait nourri par sa mythologie personnelle et qui avait seulement quelques points communs avec le monde externe.
Est-ce que Adolf Wölfli a eu des influences sur des artistes?
À vrai dire, je ne connais pas les citations directes de l'œuvre de Wölfli, mais elle était beaucoup appréciée par les surréalistes et pour nommer les artistes contemporains, c'est Hermann Nietzsche ou Annette Messager qui disent qu'ils sont très, qui apprécient beaucoup, qui admirent beaucoup son œuvre.
Comment a-t-il fini sa vie?
Elle a passé plus que moitié de sa vie dans l'hôpital psychiatrique. Elle est morte là-bas au cancer de l'estomac. Et c'était dans le moment quand il a voulu encore qu'il a désiré beaucoup finir son marche funèbre, mais ce qui n'a pas arrivé à faire.
Voilà, c'était Terezia Zemanková, spécialiste de l'art brut dans les pays tchèques et commissaire de l'exposition Adolf Wölfli, créateur de l'univers à Prague, dans le centre de la ville. Merci Anna Kubišta pour cette rubrique. Tout de suite, le tchèque du bout de la langue, les mots de la langue tchèque, présentés par Guillaume Narguet.
Le tchèque du bout de la langue.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Comme promis, nous allons revenir à l'étude du verbe dormir.
Spát.
Et ainsi poursuivre, à travers son exemple, notre petite série consacrée au rôle que jouent dans la langue tchèque les préfixes, dans le sens des substantifs et des verbes. Et après avoir dormi tout notre soûl jusque dans le rose, et même avoir couché avec quelqu'un dans notre dernière émission, il s'agira cette fois notamment de faire la grasse matinée. Et comme nous allons le découvrir, les Tchèques ont plusieurs façons de faire cette grasse matinée, ou plutôt plusieurs moyens de l'exprimer. Nous avions entamé notre dernière émission avec l'évocation d'une berceuse,
ukolébavka,
intitulée
Mravenčí ukolébavka,
la berceuse de la fourmi. Une berceuse servant d'abord à endormir les enfants, cela nous avait alors permis de découvrir une première forme du verbe
spát
avec
uspat
dans son aspect perfectif ou
uspávat
dans son aspect imperfectif. Cette fois, les deux berceuses qui nous accompagnent s'intitulent
Bláznova ukolébavka,
la berceuse du fou de Pavel Didovitch, et
Jako zázrakem spíš,
comme par miracle tu dors, de Raduza. Notons que bien qu'il s'agisse de berceuses, ces deux chansons sont relativement régulièrement diffusées à la radio, notamment la première,
Blaznova ukolébavka,
une chanson de la fin des années 1960 que connaissent sans doute tous les Tchèques, surtout les plus grands, qui aiment également la reprendre, par exemple, lorsqu'ils se retrouvent avec une guitare et quelques bières le soir autour d'un feu de camp. Mais revenons à ce verbe
uspat
ou
uspavat,
utilisé donc dans le sens de provoquer le sommeil naturel d'un enfant notamment,
uspavat dite,
par exemple en le berçant ou précisément en lui chantant une berceuse,
uspavat dite ukolébavko,
ou encore de provoquer le sommeil, cette fois artificiel, notamment pour un malade avant une opération à l'aide d'une anesthésie. Mais
uspat
peut également signifier endormir, dans le sens d'affaiblir, d'atténuer, d'amenuiser. Il s'agit alors d'ennuyer profondément quelqu'un au point de lui donner envie de dormir, de l'assoupir, par exemple lors d'une conférence ou d'un cours magistral à l'école. À n'en pas douter, nombre d'entre vous, anciens élèves ou étudiants, comprenez bien ce dont il est ici question. Mais il peut également s'agir d'endormir dans le sens de ralentir son activité, manquer de vigilance ou réduire l'attention, et même, autre sens encore un peu différent, de calmer ou d'atténuer l'acuité, par exemple d'une douleur. Enfin, dans l'argot tchèque,
uspat
est également utilisé lorsqu'un homme endort un autre en lui refilant une botte droite ou un crochet, c'est-à-dire le mettre KO, l'allonger, l'étendre, comme on dit aussi en français, d'un coup de poing. Toute berceuse devient alors généralement tout à fait inutile.
Jako zázrakem spíš a tak nevíš, že zlou prosím sudičku, dobře mu věšť, mě přisuď, co je mu slé.
Lors de notre dernière émission, nous avions expliqué que l'un des sens du verbe
vispat se
était dormir tout son saoul, soit dormir à satiété autant qu'on le souhaitait. Il s'agit là d'un sens que l'on retrouve également avec le préfixe do dans le verbe
dospat,
dont on pourrait dire qu'il signifie quelque chose comme finir de dormir, achever une bonne nuit de sommeil, et même plus, puisque dans sa forme imperfective avec
dospavat,
le verbe signifie faire la grasse matinée, dormir tard dans la matinée. Il existe encore une autre forme pour cette volupté de se prélasser plus longtemps que d'habitude dans cette chose grasse, entre guillemets, dans le sens de molle et onctueuse, comme peut l'être un lit, avec le verbe
prispatse.
Ici aussi, il s'agit donc de faire la grasse matinée. Toutefois, il existe une petite nuance avec
dospat
et
dospavat.
En effet,
dospavat
signifie récupérer, rattraper un déficit de sommeil accumulé là ou les nuits précédentes, tandis que
prispatse
comprend une notion de plaisir. Il s'agit plutôt de dormir encore par manque d'envie et de volonté de quitter la couette et l'oreiller et de se lever. Ainsi, si un Tchèque souhaite rester au lit une petite heure de plus ou s'il prévoit de faire la grasse matinée le dimanche, juste pour le simple plaisir de dormir, il emploiera le verbe
prispatse
et non pas
dospat.
En revanche, s'il a vraiment besoin de faire une grasse matinée pour récupérer d'une grande fatigue, il dira alors qu'il doit
dospat,
soit dormir un peu plus longtemps que d'habitude par nécessité. Mais quelle que soit la nécessité de cette grasse matinée, attention dans tous les cas à ne pas rester trop longtemps au lit ou à se rendormir après le réveil quand il ne le faut pas. Pour les Tchèques, il s'agit alors de
zaspat,
se lever en retard, une forme du verbe
spat,
elle aussi très intéressante et qui possède d'autres sens que celui de se lever tard, comme nous l'apprendrons dans la prochaine émission.
Spí všechny ovečky na salaši, jen moje bdění nic nezaplaší. Já dneska neusnu, i kdyby snad i beránci z nebe šli na salaš spát.
En attendant cette troisième et dernière partie de notre petite série, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
On passe maintenant à la littérature. Ladislav Fuchs a écrit une série de romans dont l'originalité a laissé une profonde empreinte dans la littérature tchèque de la seconde moitié du XXe siècle. Václav Richter évoque dans sa rubrique littéraire l'œuvre et la vie de cet écrivain secret, pittoresque et passionnant. On l'écoute.
Thank you.
rencontre littéraire. Savez-vous ce qui m'a inspiré le plus dans la création littéraire ? A demandé un jour l'écrivain Ladislav Fuchs à un journaliste. C'était toujours la musique. Elle est pour moi le pain spirituel. En effet, l'écrivain n'est jamais arrivé à se rassasier de la musique de Bellini, de Donizetti et de Puccini, et le climat musical dans lequel il a baigné presque toute sa vie se reflète aussi dans le titre de son roman « Variation pour une corde sombre », considéré comme un des meilleurs, sinon le meilleur ouvrage qu'il ait signé. Ladislav Fuchs publie son premier grand succès en 1963. Le roman, qui s'appelle « Monsieur Theodor Mundstock », aborde d'une façon originale le problème du racisme. Le roman raconte l'histoire d'un juif menacé de déportation qui cherche à se préparer à supporter la vie dans un camp de concentration. Le livre réunit déjà quelques grands thèmes de l'ensemble de l'œuvre de Ladislav Fuchs. L'auteur de sa monographie, Aleš Kovalčík, répertorie les thèmes qui ont nourri l'inspiration du romancier.
Le leitmotiv des œuvres de Ladislav Fuchs est le conflit entre le bien et le mal. Nous pouvons le voir dans le conflit entre les enfants, qui sont souvent personnages principaux de ses livres, et la brutalité du monde dans lequel ils doivent vivre. Ces enfants sont confrontés à l'indifférence et parfois même à la méchanceté du monde adulte, des membres de leur famille et des personnes de leur entourage. C'est avec cela qu'est lié le motif de la mort, qui apparaît dans ses livres sous diverses formes. La thématique funéraire chez lui est très marquante et bien originale. Dans certaines œuvres transparaît aussi une religiosité latente et cachée.
En 1967, Ladislav Fuchs descend encore plus profondément dans la peinture du mal et écrit le roman d'horreur, L'incinérateur des cadavres. En menant à la perfection le développement progressif des motifs, il donne une image fascinante de la genèse du mal. Le héros du livre, un employé des pompes funèbres, se laisse progressivement imprégner par les forces du mal qui règnent dans toute la société martyrisée par l'occupant allemand et devient exécuteur du mal dans sa propre famille. Ladislav Fuchs s'affirme bientôt comme un grand maître du style. Aleš Kovalčík relève quelques aspects de sa méthode littéraire.
En ce qui concerne le style, ce qui attire le plus l'attention du lecteur sera sans doute sa virtuosité de composition. Ladislav Fuchs doit sa renommée entre autres à son utilisation du détail. Dans ses meilleures œuvres, il a créé une structure littéraire où chaque détail a sa place et revêt une importance précise. D'autres éléments de composition importants sont des rebondissements choquants dans l'évolution de l'histoire, des coups de théâtre, des dénouements surprenants, sa capacité extraordinaire à créer une atmosphère souvent oppressante. Il excelle aussi dans la peinture de la vie intérieure de ses héros enfantins et adultes.
Et Aleš Kovalčík de constater que c'était un savant mélange de genres littéraires qui est typique de l'œuvre de Ladislav Fuchs. Il cite dans ce contexte le livre « L'affaire du conseiller de la préfecture de police », un roman policier qui est aussi une nouvelle psychologique, ou le livre « Les souris » de Nathalie Moshaber, qui est à la fois une fable et un roman d'horreur aux éléments allégoriques. Après l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'armée soviétique en 1968, Ladislav Fuchs ne se réfugie pas dans le silence comme certains de ses collègues littéraires. Il veut continuer à écrire et il lui faut donc faire un compromis avec le régime. Il écrit plusieurs livres dont les sujets sont susceptibles de plaire aux autorités en place, mais son art le trahit et cette période restera la plus faible et la moins intéressante de sa carrière. Ce n'est qu'en 1983, lorsqu'il publie le roman « La duchesse et la cuisinière », une grande fresque décrivant la lente décomposition de l'Autriche-Hongrie, que ses lecteurs retrouvent les romanciers bien-aimés. À la fin de sa vie, le romancier rédige ses mémoires, une importante somme de souvenirs censurés assez rigoureusement par l'écrivain lui-même. Il y évoque sa vie publique, il explique certaines de ses attitudes, la genèse de ses œuvres, mais il ne dit que peu de choses de sa vie privée. Les mémoires ne seront publiées qu'en 1995, donc après la mort de l'écrivain. L'éditeur Jiří Tuchl y ajoute des passages explicatifs et devient co-auteur de cet ouvrage. En 2008, les mémoires de Ladislav Fuchs, intitulées « Mon miroir et ce qui a été derrière le miroir », paraissent en deuxième édition, toujours avec les commentaires de Jiří Tuchl.
J'ai respecté l'épigraphe qui introduit la deuxième édition de ses mémoires. Ladislav Fuchs dit n'écrire que sur ce qui l'a motivé à entrer en littérature et qu'il ne veut juger ni les gens ni le régime parce que c'est la tâche de Dieu. J'ai choisi avec beaucoup de soin dans ses souvenirs les passages importants pour la formation de sa personnalité. Je ne sais plus quel classique a dit « Tu comprendras mieux un livre quand tu connais son auteur ». J'ai tâché de donner une image compacte de la personnalité de l'écrivain et d'éviter que cette image soit éparpillée. C'est pourquoi les intermezzos, les commentaires que j'ai ajoutés à ce livre et qui sont les regards de l'autre côté, ne font que compléter les souvenirs de Ladislav Fuchs. Je n'ai jamais violé notre accord qui m'engageait à ne publier que les informations autorisées par lui. Je n'ai fait qu'une seule exception et c'est le passage sur son mariage raté.
Bien que ce livre soit plein d'informations intéressantes, le lecteur cherchant à mieux connaître la vie de l'écrivain restera donc sur sa faim. C'est dans les romans de Ladislav Fuchs qu'il doit chercher et qu'il apprendra beaucoup plus sur l'âme de leur auteur que dans son livre des mémoires.
Voilà, c'est par cette rencontre littéraire présentée par Václav Richter sur l'auteur tchèque Ladislav Fuchs que s'achève cette émission, préparée par la rédaction française de Radio Prague et présentée ce week-end par moi, Paul Bauer. Demain, je vous retrouve pour vous faire découvrir le jazz du guitariste tchèque David Doruška. En attendant, vous pouvez lire et écouter tous nos programmes sur Internet à l'adresse suivante www.radio.cz/fr. Vous pouvez aussi nous contacter par email à l'adresse suivante cr@radio.cz. Bonne fin de week-end. Au revoir. Naslishenau.